Radio Vatican, France et Afrique.
Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Le pape François a reçu ce lundi en audience au Vatican les membres de la congrégation des Petites Sœurs de Jésus ainsi que les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus réunis à Rome à l'occasion de leur chapitre général. Vous suivrez les détails dans cette édition. Au Bénin, une semaine après l'incendie ayant provoqué des dégâts matériels et humains, les évêques se sont rendus sur les lieux des drames pour prier avec les victimes. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira en Égypte, où une trentaine de personnes ont été blessées lundi par un incendie. Nous irons à Madagascar et au Mali, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous recevrons Mgr André Okeya, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale du Cameroun, qui nous parlera des enjeux du synode sur la synodalité dont il est membre, en passant par les défis de son diocèse. Voilà tout pour les titres.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques Ngol.
Deux audiences à deux congrégations françaises. Lundi au Vatican, le pape François a reçu les Petites Sœurs de Jésus et les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Au premier, François demande simplicité et générosité dans l'amour des pauvres. Au second, de bouleverser leur plan pour affronter les défis les plus urgents. Jean-Charles Puzolu.
Les Petites Sœurs des Pauvres sont à l'image de Saint Charles de Foucault, dont la fraternité s'inspire, humilité, discrétion et efficacité dans l'action envers les plus démunis. Invitées à cultiver l'écoute dans un esprit de disponibilité et de service, les Petites Sœurs sont à même de répondre aux cris des pauvres dans les villes et les villages où elles sont envoyées, le cœur libre et léger. Elles témoignent de l'Évangile par leurs œuvres de charité et par une présence fraternelle. L'exemple qu'elles offrent, leur dit François, est le meilleur moyen de montrer à l'époux divin qu'on l'aime. Le pape salue la proximité et la tendresse bienveillante de la fraternité, des valeurs précieuses, dit-il, dans une société comme la nôtre où, malgré l'abondance des moyens, au lieu que les bonnes œuvres se multiplient, les cœurs semblent s'endurcir et se fermer. La tendresse était aussi au centre de l'allocution du pape aux missionnaires du Sacré-Cœur. La tendresse pour une annonce joyeuse de la mission et pour, avec courage, manifester la miséricorde de Dieu. Pour développer cet aspect de la mission, François souligne, outre l'annonce joyeuse, deux autres attitudes fondamentales. Connaître le cœur de Jésus à travers l'Évangile et approfondir la compréhension de son message dans le partage. Cela veut dire, pour le Saint-Père, se laisser transpercer par l'Écriture pour contempler la charité avec laquelle le Sauveur s'est laissé toucher par toutes les pauvretés. François invite ses hôtes au partage fraternel de leur rencontre avec le Christ et à s'ouvrir à de nouveaux types de ministères, s'il le faut, pour faire face aux nombreuses misères et injustices qui se renouvellent dans le monde et qui nous interpellent avec urgence.
Les membres délégués et envoyés spéciaux au synode sur la synodalité qui s'ouvre mercredi 4 octobre ont entamé une retraite spirituelle de 3 jours depuis samedi 30 septembre. Cette retraite qui se déroule à la Fraterna Domus de Sacrofano à quelques kilomètres de Rome a pour but de permettre aux participants de se préparer spirituellement à cet événement de l'Église universelle. Car comme l'a souligné le pape François dans l'avion de retour de son voyage apostolique de la Mongolie, le 4 septembre dernier, sans la prière, il n'y a pas de synode. François qui a rappelé entre autres que le synode n'est pas un moment de débat idéologique ou politique. Reprenant le pape François, le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode des évêques, a rassuré que la prière les disposera à se conformer à la volonté de Dieu et se préserver du risque de plier la volonté de Dieu à la leur. En République démocratique du Congo, clôture samedi dernier du mois de la Bible dans le diocèse de Butembo Beni lors d'une messe présidée par Mgr Melchisedek Sikuli qui a manifesté sa satisfaction pour l'évolution de la traduction de la Bible en langue locale, notamment en Kinande. Des précisions avec Jean-Baptiste Malengue.
L'évêque de Butembo Beni, Mgr Melchisedek Sikuli, a clôturé le samedi 30 septembre le mois de la Bible en République démocratique du Congo par une messe dans la cathédrale Mater Ecclesiae, mère de l'Église. L'évêque, qui vient de fêter ses 25 ans d'épiscopat, s'est réjoui en particulier du fait que la Bible sera bientôt disponible en langue locale, le Kinande. L'évêque de Butembo Beni s'en est félicité au micro de Radio Elimou et de la radio-télévision diocésaine Moto.
Nous avons déjà en chantier le gros premier livre de la Bible qui est déjà traduit. Il sera question de rassembler, de corriger et de mettre à forme tout cela pour que nous ayons la Bible complète. C'est heureux cette année que nous ayons réussi à faire publier le premier lectionnaire par l'édition Verbum Bible.
L'évêque de Butembo Beni a insisté sur la formation nécessaire pour la lecture de la Bible à n'importe quelle langue et surtout pour l'interprétation en vue de la prédication et de l'évangélisation. C'est pourquoi pendant le mois de septembre, mois de la Bible, plusieurs initiatives ont été prises dans les 72 paroisses du diocèse de Butembo Beni. Certaines ont initié des cercles bibliques dont les membres se réunissaient chaque dimanche. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Environ une semaine après l'incendie d'un dépôt de carburant qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes à Semekraké dans le diocèse de Porto Novo, les évêques de la conférence épiscopale du Bénin se sont rendus vendredi 29 septembre sur les lieux des drames pour compatir avec les habitants de la localité et prier avec les parents des victimes. Écoutons les comptes rendus de Guidoso Yovo.
Suite à l'incendie meurtrier qui a frappé les populations de Semekraké dans le diocèse de Porto Novo le 23 septembre 2023 au Bénin, une délégation des évêques de la conférence épiscopale du pays conduite par son président Monseigneur Roger Ongbeji s'est rendue sur les lieux du drame le vendredi 29 septembre 2023 en compagnie de l'ordinaire du lieu Monseigneur Aristide Gonzalo. C'est par un moment de prière et de recueillement en l'église paroissiale Saint-Michel de la localité que la délégation a démarré la visite avant de s'arrêter devant les décombres du site pour une prière d'absoute pour le repos des âmes trépassées. La visite a pris fin par une déclaration des évêques lue par Monseigneur Ongbeji en signe de témoignage de leur proximité et de leur compassion envers les populations sinistrées.
Ce drame nous rappelle la fragilité de la vie, un précieux don de Dieu. Nous prions pour que des actions concrètes soient entreprises pour éviter de tels drames à l'avenir.
Ils en ont profité pour lancer un appel aux autorités sociopolitiques ainsi qu'à tout le peuple béninois.
Nous lançons un appel pressant à chacun d'entre vous, à tous les citoyens du Bénin, pour une plus grande responsabilité dans la préservation de nos vies et de nos biens. Nous profitons de cette occasion pour encourager le gouvernement à accélérer les mesures prises pour réglementer et sécuriser le commerce des produits pétroliers.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé lundi le QG de la police à Ismailia, l'un des plus grands bâtiments de cette ville situé sur la rive occidentale du canal de Suez, selon le ministère de la Santé. Maîtrisé dans la matinée, le feu dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat était déclaré au siège de la direction de la sûreté avant l'aube. Des images mises en ligne montrent l'immense flamme dévorant les nombreux étages de l'imposant immeuble de pierre occupé par les policiers. À l'arrivée des premiers services de secours, l'incendie avait envahi tout le bâtiment de la direction de la sûreté de cette ville du nord-est de l'Égypte. Les forces de l'ordre malgaches ont fait usage de gaz lacrymogène lundi contre les candidats de l'opposition à la présidentielle prévue début novembre qui convergeaient avec quelques centaines de soutiens vers une place du centre de la capitale. 11 candidats et opposants dont l'ex-président Marc Ravalomanana avaient appelé à se rassembler en début de matinée sur la place du 13 mai, théâtre de toutes les contestations politiques de la grande île de l'océan Indien. Plusieurs de ces candidats avançaient en tête des cortèges lorsque les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser. Dimanche soir, le président sortant et candidat aux élections du 9 novembre, Andry Rajoelina, a dénoncé les agissements de ces 11 candidats de l'opposition qu'il accuse de créer de toutes pièces une nouvelle crise politique. Un important convoi de l'armée malienne s'est mis en mouvement lundi à Gao en direction de la région stratégique de Kidal, au nord bastion de la rébellion Touareg, ont indiqué lundi deux responsables sécuritaires sous le couvert de l'anonymat. Dans le cadre du réaménagement de notre dispositif dans le nord, nous avons commencé le redéploiement de nos forces dans la région nord-est de Kidal, a dit un responsable militaire malien. Le convoi a quitté lundi matin Gao à environ 300 km au sud-ouest de Kidal, a-t-il dit. Y a-t-il une main noire ou des projets inavoués derrière les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans certaines parties du Tchad? C'est la question à laquelle tente de répondre Mgr Edmo Djitangar, président de la conférence épiscopale et archevêque de N'Djamena. Ces tensions, souvent sanglantes et qui causent des morts, connaissent une certaine escalade, a déclaré le prélat tchadien.
On a l'impression d'assister plutôt à une escalade d'occupation illicite des terres, accaparement de terres, monomilitari, par ceux qui ont des projets, des ambitions. Peut-être que la désertification au nord les pousse à... Mais il y a aussi des possibilités de s'entendre, de s'organiser pour une nouvelle redistribution des terres. Les terres qui ne sont pas occupées pourraient très bien être des terres d'accueil pour ceux qui sont en recherche de terres. Or, ce sont les terres déjà occupées par des paysans depuis des générations qui leur sont arrachées par la violence et peut-être de manière sanglante et qui fait que on a l'impression que c'est un plan arrêté de déposséder les propriétaires actuels qui vivent de cette terre-là au profit d'autres qui peut-être n'ont pas d'autres projets que des projets d'élevage, des projets, je ne sais pas, d'exploitation à grande échelle de produits pour l'exportation, alors que les populations là vivaient de cette terre dont ils tirent la nourriture et des ressources pour leur bien-être.
Et donc on peut dire que la cause n'est pas seulement la désertification, mais il y a peut-être une main cachée derrière.
Oui, il y a des intérêts extérieurs, par exemple des grandes productions oléagineuses ou bien des ressources minières souterraines que nous n'arrivons pas encore à déceler, qui font que ce n'est pas seulement ceux qui sont là qui sont les maîtres du jeu, mais on a l'impression qu'ils obéissent à d'autres contraintes extérieures ou le grand capital international. Nous nous posons la question de savoir justement quelle est la main qui est derrière ceux qui actuellement sont aveugles et sourds à tout ce qui peut être cri, revendication et proposition pour un meilleur vivre ensemble entre les populations.
Est-ce que l'Église apporte une certaine contribution dans la recherche d'une solution durable dans ces conflits?
Mais l'Église fait d'abord la porte... parole, la voix de ceux-là dont les voix sont étouffées à travers les déclarations, à travers aussi les relations avec l'autorité locale ou nationale. Et je crois que les propositions ont été faites et à chaque occasion de Noël, nous adressons à la nation un message de Noël dans lequel nous prenons un thème, une situation vraiment urgente et nous faisons des propositions. Et évidemment, l'analyse est bien faite, tout le monde reconnaît que c'est vrai cela, mais pour être courageux et aller jusqu'au bout et appliquer les solutions qui s'imposent, il y a vraiment de midi à minuit.
Mgr Edmo Djitangar, président de la conférence épiscopale et archevêque de N'Djamena, qui répondait aux questions de Stanislas Kambashi. La synodalité fait partie de la culture africaine. Déclaration de Mgr André Nkeya, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale du Cameroun. Mgr Nkeya, qui prendra part au synode sur la synodalité, l'a illustré avec les processus de prise des décisions qui partent des communautés de base ou des familles, mais aussi avec une structure sanitaire en construction dans son diocèse sur proposition et avec la contribution des fidèles. Le prélat camerounais commence par nous parler de son diocèse.
Je remercie le bon Dieu parce que jusqu'à maintenant, l'archidiocèse de Bamenda se porte bien, et surtout dans notre plan pastoral, parce que nous avons travaillé pastoral de notre province ecclésiastique. Et dans ce plan, nous commençons toujours soit avec la catéchèse, avec mariage, les quêtes, contributions, décisions, on commence toujours dans les familles. Parce que c'est comme ça qu'on a, travaillé une structure très, très solide. On commence toujours par les familles et les communautés ecclésiales de base, et les missions, les paroisses et le diocèse. Donc, pour prendre une décision...
Part de la base.
Oui, tout part de la base. Quand je suis arrivé à Bamenda, j'ai posé une question à tous les fidèles. Qu'est-ce que vous voulez? Notre projet d'urgence, c'est quoi? Ils ont décidé, eux-mêmes, qu'on construit un hôpital.
Une structure sanitaire.
Une structure sanitaire. J'ai dit, bon, ça va. Et ils ont parlé de ça, n'est-ce pas? De tout ce, dans ce processus. Et ils ont décidé. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'achever les travaux de 6 étages.
Et qui pourra accueillir combien de malades?
Au moins 200 lits. Et c'est le peuple de Bamenda qui paye. Je n'ai pas reçu un franc d'ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Je parle comme ça parce que j'ai l'expérience des succès de ce plan pastoral. Et tout ça, c'est la synodalité. Parce que la synodalité fait partie déjà de la culture africaine.
Comment ça, expliquer un peu?
Parce que nous sommes toujours dans les familles. Et la famille, c'est très important pour l'Afrique. Quand un père appelle ses enfants pour parler des choses dans la famille, c'est déjà un conseil, le conseil familial. Il parle de ça et vous voyez, il y a toujours les étapes. Il y a les petites familles, il y a la grande famille et plus grande famille. Il y a les clans, il y a les tribus et tout ça. Donc, dans notre structure de plan pastoral, on commence toujours par les familles. Et ça nous a beaucoup aidé dans la pastorale. Pour faire le baptême des enfants, ce n'est pas que tu vas voir, n'est-ce pas, le curé. Tu commences par la communauté, votre communauté de base. Si tu n'es pas membre de la communauté de base, ça veut dire que tu n'es pas membre de l'Église. Donc tu commences par là, à la mission et jusqu'au curé.
Est-ce qu'on peut dire que ce processus qui part de la famille, puis les communautés ecclésiales de base et les missions et les diocèses sera l'apport de l'archidiocèse de Bamenda pour les synodes sur la synodalité?
Pas seulement de l'archidiocèse de Bamenda, mais de notre province ecclésiastique, de notre église camerounaise. Et disons aussi, on a fait adopter l'Afrique. Donc, on va présenter ça comme une position africaine, n'est-ce pas, pour vivre réellement synodalité. Synodalité, ce n'est pas seulement un mot, mais c'est la vie concrète.
C'est la réalité.
La réalité de la vie quotidienne. Et on peut vivre ça seulement dans les structures établies pour faire fonctionner synodalité.
Et 3 évêques du Cameroun vont prendre part à ce synode sur la synodalité. Monseigneur, quel pourra être l'apport de l'Afrique en général dans ces processus de l'Église universelle?
Il faut que je précise qu'il y a 10 évêques qui viennent pour représenter le Cameroun. Moi, je viens au synode comme membre de conseil du synode. Donc, je ne viens pas comme délégué.
Donc, vous êtes ex-officio, comment?
Oui, je suis ex-officio, membre du synode. Et cette synode sur synodalité, c'est quelque chose de neuf. L'Église fait une réflexion sur elle-même. Comment nous voulons être Église? Et on a déjà fait une rencontre des CHEM au Ghana et notre face continentale à Addis Abeba, en Éthiopie. Et après la publication de la liste des délégués, on a encore fait une autre rencontre à Nairobi, n'est-ce pas, pour situer un peu l'Afrique dans le synode et pour avoir la position africaine sur certains points. Et on va parler de ça pendant le synode.
Monseigneur André Nkeya, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale du Cameroun, il est de ceux qui prendront part au synode sur la synodalité à partir de mercredi 4 octobre. Il s'entretenait avec Stanislas Kambashi. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme. Jacques Ngol, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Nous vous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.